L'évangile que nous venons d'entendre nous met en présence de ce moment où, selon Jean, notre évangéliste, Jésus commence sa vie publique. Plus je relis les quelques versets consacrés à cet événement à la fois discret et important, plus j'ai l'impression que l'évangéliste y livre plus qu'une notice historique, plus aussi qu'un petit chef-d'œuvre littéraire qu'il vaudrait la peine d'analyser, ou une petite et très dense synthèse christologique et même ecclésiologique. Il y livre quelque chose qui me semble encore plus important. Il y livre quelque chose de son propre cœur. L'évangéliste, Jean, nous livre quelque chose de son cœur. C'est ainsi qu'il ne nous donne pas simplement un récit, certes très précis, de quelque chose qu'il considère comme significatif, mais il nous fait part d'une expérience vécue. Il nous fait toucher quelque chose d'une expérience de vie. Il nous permet, pour ainsi dire, d'entrevoir quelque chose de sa propre expérience. De fait, n'est-il pas un des deux disciples de Jean-Baptiste mentionné dans le texte, à savoir celui précisément dont on tait toujours le nom? Et en quoi consiste cette expérience? Au fond, en rien d'autre qu'en la première rencontre avec Jésus de Nazareth. Or, celle-ci n'est pas due au hasard. Elle a lieu grâce à une parole. Elle devient réalité grâce à une parole à la fois forte et humble de Jean-Baptiste qui, par cette même parole, se met totalement à l'arrière-plan pour rendre attentif à quelqu'un d'autre, à cet autre qui est Jésus. Non seulement rendre attentif ses disciples à Jésus, mais guider leurs pas vers lui, les encourager à suivre désormais celui dont lui-même avait été celui qui avait préparé la route. Or, cette parole de Jean-Baptiste, qui introduit comme un nouveau mouvement, consiste à désigner Jésus comme « agneau de Dieu ». Nos oreilles sont peut-être un peu trop habituées à cette expression entendue à chaque messe avant la communion. Mais pour Jean-Baptiste et son entourage, parler de « agneau de Dieu », c'est évoquer l'événement central de toute l'histoire du peuple élu. Dire que cet agneau est présent ici et maintenant, c'est annoncer la présence du Messie, la présence de l'envoyé de Dieu. Or, l'expression « agneau de Dieu », si riche de signification aux oreilles de Jean-Baptiste et ses disciples, remonte au texte du prophète Isaïe qui, dans un de ses grands poèmes, évoque la figure mystérieuse du serviteur souffrant. Ce serviteur du Seigneur chargé de nos souffrances et douleurs et qui, écrasé par le poids de nos fautes, se laisse mener à l'abattoir comme un agneau qui n'ouvre pas la bouche. L'agneau de Dieu, à la présence duquel le Baptiste rend attentif, c'est ce serviteur humilié à l'excès, grâce auquel nous retrouvons, comme l'affirme encore Isaïe, la paix. Dès lors, comment Jean, l'évangéliste, et André, les deux disciples peut-être les plus proches, les plus aimés du Baptiste, auraient-ils pu fermer l'oreille à la remarque discrète de leur maître « Voici l'agneau de Dieu ». Celui-ci, Jean-Baptiste, leur a montré un nouveau chemin. Il a préparé leur cœur à suivre celui qui sera en personne leur nouveau chemin. Et le Baptiste, en vrai maître, a su s'effacer entièrement pour laisser suivre ses disciples leur route à eux. Je dois ici l'avouer, cette humilité abyssale de Jean-Baptiste, humilité qui ne procède pas d'une autodépréciation, mais d'un immense amour pour le Messie de Dieu, me bouleverse de plus en plus. Cette attitude du premier témoin du Christ qui ira jusqu'au bout de son témoignage se trouve de fait à l'extrême opposé de toutes ces attitudes pernicieuses de tant de faux guides dont depuis trop longtemps on a dû faire le triste inventaire même au sein de l'Église. Mais il y a plus. L'attitude du Baptiste est comme un miroir de l'attitude de Jésus lui-même, un miroir de l'âme profonde de l'agneau de Dieu. De fait, si la manière dont Jean-Baptiste conduit au-delà de lui-même ses propres disciples nous révèle son enracinement profond dans la volonté aimante et salvatrice du Père, c'est la manière dont Jésus, la manière dont l'agneau de Dieu accueille ceux qui, dans la liberté du cœur, émus par un amour sincère, se tournent vers lui. De fait, Jésus ne les accueille-t-il pas avec une douceur qui laisse entièrement intacte leur liberté? En laissant reposer son regard sur eux, ne se contente-t-il pas de leur adresser cette si humble et en même temps si forte question « Que cherchez-vous ? » Comprenons-le bien. Celui qui a été désigné comme agneau ne pose qu'une question « Que cherchez-vous ? » Cette question, il la posera à la fin du même quatrième évangile, aussi à Marie-Madeleine, avec cependant une petite précision. « Qui cherches-tu ? » Et je me demande, Jésus ne pose-t-il pas cette question également à chacun de nous ? Notre vie n'est-elle pas quête inlassable de ceux qui pourraient combler durablement notre cœur ? Quête de ceux qui pourraient lui procurer pour toujours le repos et la paix. N'est-ce pas là l'aspiration la plus profonde de toute vie humaine? Et si, par conséquent, nous nous laissions un peu de temps pour permettre à Jésus de nous poser cette question, un peu de temps pour nous exposer à cette question, peut-être nous l'entendrions nous dire avec cette voix si fine de l'agneau qu'on ne peut pas confondre avec une autre voix. Viens et vois, viens, regarde, vois, et demeure avec moi auprès du Père.